Bienvenue dans La Voix au chapitre, le podcast médiéval et littéraire animé par Marielle Avesco et Anaïs Guiraud. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Mariella.
Tu vas bien?
Ça va et toi?
Oui, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Voilà, qu'on va consacrer à un sujet, un grand sujet quand même, qui va bien nous occuper, qui est aussi habité par pas mal de clichés. Hein.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, c'est ça, on va démarrer là-dessus. On va parler ce soir de l'alimentation, de la nourriture au Moyen-Âge. Voilà, comment est-ce qu'on mangeait sur les tables au Moyen-Âge? Et voilà, comme on disait un tout petit peu avant de commencer le podcast, c'est quand même sujet à beaucoup, beaucoup de clichés.
Ah ben énormément. Moi, comme tu sais, qui suis une très grande fan de Kaamelott, j'ai toujours cette image de ces épisodes où on se moque du maître d'armes parce qu'il est sain et qu'il mange des graines, alors que tous les autres mangent effectivement des choses très grasses et principalement de la viande. Il y a aussi cette organisation du banquet des chefs de clan où Vénèque, qui se prétend organisateur, qui est en fait un voleur, un malandrin, dit que lui, il a prévu de la viande et de la viande cuite dans sa graisse. Voilà.
Ben voilà,
donc je crois que c'est à peu près l'image que tout le monde doit se faire de comment les gens mangeaient à l'époque médiévale, c'est-à-dire gras et principalement de la viande.
Et voilà. Beaucoup de viande,
donc,
ouais, je pense
et
que
beaucoup,
c'est ce
beaucoup
qu'on
de
a
viande.
En tête. Alors que c'est quand même, alors il y a une part de vérité, hein, sur les tables nobles, on a quand même pas mal de viande, surtout les jours de banquet, mais enfin, voilà, c'est quand même pas la vérité dans le sens où je pense qu'on va en parler largement, mais on mange pas pareil à une table noble que sur les tables du peuple.
Dessert, bah oui,
Et puis
tout à
tout
fait.
dépend aussi des temps de l'année dans lesquels on est, puisque en
On se
fait
trouve.
à l'époque médiévale la nourriture est quand même très rythmée par les temps spirituels, les temps religieux et du coup les temps de jeûne et les temps de voilà, les jours maigres et les jours plus riches. Mais ça, du coup, on va réaborder ça, mais qui fait que quand même, les gens sont obligés de jeûner, de se passer de viande, de manger plus maigre. Et en fait, on ne mange pas si gras que ça au Moyen-Âge.
Ben non, et
C'est
puis
pas la
surtout,
ripaille.
pas tout le temps en tout cas, et surtout oui, l'alimentation dit clairement quelque chose du niveau social, puisqu'on a quand même 90% de la population largement qui est paysanne ou serf, hein, donc attachée à la terre d'un seigneur. Donc c'est vraiment ce découpage de la société en classe nobiliaire et en classe paysanne qui va donner des indications et puis qui va nous faire comprendre ce qu'on mange le plus. Et comme tu as très bien dit, on mange pas pareil quand on est à la table seigneuriale que quand on est le pauvre paysan qui rentre chez lui, même si vraiment il y a quand même un triptyque qui reste tout au long du Moyen-Âge qui est pain, viande et vin. C'est
Oui,
vraiment
c'est
quand
ça.
même les trois bases,
Oui,
on
c'est
peut
ça.
dire, d'une alimentation, qu'on soit pour le coup un noble ou qu'on soit un paysan.
Oui.
Et d'ailleurs, le terme viande, il désigne dans le vocabulaire médiéval toute la nourriture, alors que la viande, ce que nous on appelle la viande, c'est la chair, et
Ah
viande, c'est
oui.
vraiment tout le
Eh
reste.
ben, tu
Donc,
vois, là, tu m'apprends un truc.
c'est quand même différent. D'où peut-être cet amalgame de se
Je
dire, on mange
pense
que de la
effectivement, mais
viande.
complètement, complètement. Là, j'apprends un truc effectivement. Et ben oui, super. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça me faisait penser à ça. Oui, effectivement, on mange pas pareil à la table d'un noble, à la table d'un pauvre. Effectivement, par contre, on mange du pain
Énormément de pain.
aux trois repas principaux. Enfin, le pain, c'est quand même la base de l'alimentation.
C'est
Par
entre
contre,
500 grammes et 2 kilos par personne et par jour de pain.
oh la vache, deux
Qui sont
kilos.
consommés.
C'est énorme. C'est vraiment la base la base de l'alimentation. Après, c'est les accompagnements qui vont changer et les types de viande
Exactement.
aussi qui vont changer. Mais du coup, on va rentrer un petit peu dans le détail. Du coup, on commence par quoi? Les tables nobles ou les tables du peuple?
Je pense qu'on peut commencer plutôt par l'étape du peuple et du coup par le pain, qui, comme
Voilà.
on vient de le dire, est vraiment la nourriture principale donc, et incontournable. Donc le pain, il se consomme vraiment dans plein de formes. On a vraiment ces pains de seigle, ces pains noirs qui sont pains communs, si on peut dire, et qui vont aussi, c'est pour ça je pense qu'on en consomme autant, servir d'assiette. Hein. Les tranchoirs, c'est ces
Bah voilà.
grandes tranches de pain bille, donc pain noir, sur lesquelles on mange. Alors chez les nobles, elles finissent à la fin du repas dans la gueule des chiens, mais chez les pauvres, on les mange
On les
jusqu'au
mange,
bout.
bah oui.
Chez les nobles, on va préférer manger du pain blanc, du pain de froment, comme chez nous. Et dans certaines régions, dont une région qui ne doit pas être inconnue, on va retrouver la galette de sarrasin,
Ben
notamment
voilà.
en Bretagne. Voilà,
Et
donc
ben
ça
voilà.
remonte quand même à cette époque-là. Donc oui, le pain, c'est vraiment l'essentiel, la base principale de l'alimentation.
Et après, dans le peuple, c'est vrai qu'on mangeait quand même beaucoup bah, autour de ça bah, des légumes. Et puis
Exactement.
tous les, bah, les produits de la ferme, en fait, du coup, le lait, le fromage fait à base de lait, les œufs. Alors,
Alors,
ça dépend des.
le laitage n'a pas très bonne réputation. Les médecins estiment que comme c'est un aliment qui est très humide, il n'est pas forcément très bon. Par contre, tout ce qui est fait à base de laitage, et en dehors
Oui,
des
c'est ça.
nourrissons, hein, bien sûr. Les nourrissons, bien entendu,
Le
consomment du lait.
fromage, du coup.
Voilà, le fromage est très, très, très prisé. Et en légumes, vraiment, on va trouver toute la cohorte des soupes, des bouillies, des
Bah oui,
brouées,
voilà.
où on va vraiment consommer beaucoup de liquide sous cette forme-là. Et là, on va
Avec
retrouver des légumes qu'on connaît, voilà,
les
des
légumes
poireaux
racines,
surtout.
quoi.
Oui, et aussi poireaux, oignons, beaucoup d'oignons. Hein. Je crois que l'oignon est très, très, très consommé à la période médiévale parce qu'il est réputé avoir des vertus médicinales, ce qui est vrai. Donc le poireau,
Oui,
c'est une.
ben toujours, on est toujours, oui.
Les fèves, voilà, les navets, les panais, tout ce qui est betterave, voilà, les épinards sont très très consommés également. Voilà. Mais ça, effectivement, c'est l'accompagnement.
Oui, c'est l'accompagnement. Et puis bon, au peuple, enfin dans le peuple, on consommait un peu plus de, en termes de viande, je veux dire, alors de viande comme on l'entend à l'heure actuelle, plus peut-être tout ce qui était porc et petit gibier du genre lapin, en fait, ou les petits oiseaux, quoi. Les petits oiseaux, pigeons,
Exactement, tout ce qui peut
voilà.
être pris au collet. Et
Voilà.
effectivement, la viande, après, oui, d'animaux domestiques, on va dire quelque part, donc
Ouais.
porc, chèvre, mouton,
Mais
bœuf,
après,
avec des disparités.
je lisais que le bœuf, le mouton et le, enfin, étaient quand même moins, comment dire, alors ils étaient mangés, mais moins souvent parce que du coup, comme ils sont utilisés, exploités pour leur lait, pour leur, bah, du coup, les chèvres et les vaches pour leur lait, le mouton pour la laine, la poule pour ses œufs. Bah, du coup, on les garde pour en exploiter leur. Mais bon, ils sont mangés aussi, mais
Ils sont
je
mangés
crois savoir que du
aussi
coup, le porc servait quand même beaucoup à faire bah, du coup, toute charcuterie, les pâtés, les saucisses, etc.
Oui,
Le
alors tout ce qui est
lard.
la salaison, voilà, tout ce qui est la
Voilà.
salaison. Le sel, il est principalement d'ailleurs utilisé comme conservateur
Moyen
et
de
pas forcément comme
conservation.
assaisonnement. Mais oui, il y a des différences en fait selon les régions, forcément, et selon les pays. Donc ça ne surprendra pas, mais dans tout ce qui est pays et Saint-Empire romain germanique, dans cette zone-là, on mange beaucoup, beaucoup plus de porc que dans les autres régions d'Europe. Il y a même des différences de goût et d'assaisonnement selon les contrées. Donc en France, on a un goût qui est plus acide. On préfère l'acidité.
Ah oui.
Alors qu'on sait qu'en Angleterre, on va préférer les choses plus sucrées. Voilà, il y a aussi ces différences-là. Et donc la viande aussi, ça ressort dans ce sens-là. Dans le sud, on va être plus prompt à consommer de la viande de mouton ou d'agneau. Et également, les croisés
Bah oui.
rapporteront bah, un peu la gastronomie
Ben oui, forcément.
d'Orient. Et voilà, où l'agneau est une viande qui est très, très consommée. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ces disparités un peu régionales, peut-on dire.
Nord-Sud, et puis oui, c'est évident. Puis c'est vrai que même au niveau des légumes, tout ne pousse pas dans toutes les régions. Enfin, c'est vrai que c'est
Exactement.
très lié à la saison et là, pour le coup, aussi aux régions. Donc, je pense que sur le pourtour méditerranéen, il y avait quand même un peu plus de variété que vers le nord, du coup, de l'Europe.
Peut-être un peu plus de légumes verts,
Oui.
mais c'est pas forcément en termes de variété, puisqu'après les légumes racines sont peut-être plus consommés dans le nord, notamment la betterave, qui est très 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 prisée parce qu'elle a ce petit goût sucré
Ben oui,
qui
c'est bon.
vient faire ce mélange sucré-salé qu'on aime beaucoup beaucoup à la période médiévale, ils aiment bien ce mélange-là. Donc c'est vrai que oui, il y a sûrement eu aussi des disparités comme ça, mais le chou par exemple, où les épinards poussent à peu près partout. Mais
Oui,
par
c'est
contre,
ça. Puis
en
bon,
termes de saison, c'est compliqué. C'est vraiment les
il y a
saisons
la roche.
printemps-été.
à roche que nous, on consomme moins maintenant, mais qui est très proche des épinards. Et je sais que tout ce qui était bête, épinards à roche, c'était quand même extrêmement consommé
Tout à fait.
à l'époque médiévale, comme aussi du coup des carottes que nous, enfin, les carottes un peu anciennes, du coup, les carottes violettes, les carottes blanches, tout ce qui est navets, choux, etc.
Oui, puis même
Ça,
des
c'était.
légumes dits anciens qui reviennent maintenant à la mode, comme le cerfeuil tubéreux ou le panais qui était très très consommé.
C'est ça. Et puis, ben, on avait des fruits. On avait des fruits quand même à
On
la
avait quand
table.
même des fruits, ouais.
Même si je crois savoir quand même que c'était plus consommé par les nobles, puisque du coup, ben, on le verra quand on va reparler des tables nobles, mais du coup, les légumes poussant plutôt vers, ben, dans la terre et les arbres dans les fruits, enfin, les fruits dans les arbres, du coup, plus près du ciel, plus proche de Dieu, en général, du coup, les fruits sont considérés comme étant plutôt nobles, en fait, et s'invitaient quand
à
même
fait.
pas mal aux tables bah, plus riches, en fait.
Oui, et surtout sous forme confite, hein, parce qu'on n'aime pas trop trop manger cru,
Les
hein, à la
crus,
période médiévale.
ouais,
On l'a
tout
déjà
à fait.
dit, la salade, par exemple, elle arrive en accompagnement très tardivement sur la fin du XVe siècle, donc vraiment la toute fin de la période. Oui, à l'époque, on ne mange pas vraiment cru,
La
donc les
crudité,
fruits,
non, non, que ce soit les
ouais,
légumes,
sont
que ce
beaucoup
soit
consommés
les
confits.
fruits, c'est plutôt des compotés, des confits, effectivement, ou des
Exactement,
choses
compoté,
macérées,
beaucoup de
quoi.
compote, beaucoup, beaucoup de compote.
Voilà. Mais on mangeait quand même un peu de fruits à la table du peuple. J'imagine aussi qu'on pouvait tout à fait cueillir, enfin, tous les fruits qu'on peut cueillir, les petites baies, les petites mûres, les petites framboises,
Oui, tout ce qui est petits fruits
voilà.
rouges, bon,
Les
fruits des
petits fruits
bois,
rouges, à
fruits
mon.
rouges, comme les champignons sont très très consommés aussi à la
Voilà.
période médiévale parce que c'est des choses qu'on trouve facilement dans la nature. Et avant le grand mouvement des enclosures, bah, tout ce qui est bord de chemin, forêt, etc., c'est libre. Donc c'est effectivement des choses qu'on peut facilement se procurer.
Et voilà, donc je pense que. Et puis alors, du coup, on parle. Alors là, c'est le peuple, on va dire, tout. Mais je pense que c'était. Enfin, je pourrais avoir lu, hein, aussi. C'est. Les moines, par exemple, mangeaient aussi ce type d'alimentation. Voilà, à peu près. Pareil, le pain. Et puis, du coup, bah, pareil, fromage. Et. Enfin, même type d'alimentation, quoi. On
Oui,
retrouve pas de
après
différence.
les règles monastiques, et notamment celles de Cîteaux, sont souvent donnent souvent des indications très précises sur l'alimentation qui doit être celle des moines, etc. Mais on se rapproche du coup, oui, plus quand même de la nourriture des paysans que de celle des nobles, donc beaucoup de pain et pas mal de liquides, pas mal de brouets, pas mal de choses comme ça. Donc je crois qu'on peut aussi revenir sur le rôle de la religion dans cette affaire d'alimentation qui aujourd'hui bah, nous semble totalement décorrélée au niveau social. On n'a plus du tout cette mainmise-là, mais à l'époque, oui, la religion joue un rôle dans l'alimentation qui est très très important, en tout cas dans le régime alimentaire, puisqu'il y a de très très longues périodes de jours saints, donc qui sont à la jeûner ou dit jour maigre ou jour de carême, ça fait à peu près 30% de
Oui, c'est
journées
ça, hein. C'est
à
fou, hein,
jour maigre dans l'année. Hein.
quand on repense à ça. Alors, nous, à l'heure actuelle, il n'y a plus que le carême, on va dire, aux alentours, enfin, avant Pâques.
Avant
Et
Pâques, ouais.
encore maintenant, c'est quand même bien assoupli. Il n'y en a plus tellement qui font un vrai carême.
Un vrai carême, ouais.
Voilà. Mais à l'époque médiévale, c'était bien plus que ça. Il y en avait même avant Noël. Enfin, il y avait des
Oui.
vraies périodes de jeûne régulières qui venaient du coup
Oui, il y avait
jalonner bah,
beaucoup
l'année,
de
en fait.
saints. Oui, puis beaucoup de saints étaient fêtés par des jours de carême, les saints les plus importants comme Saint-Michel par exemple, ou tous les apôtres. Donc c'est vrai que il y avait quand même énormément de jours maigres, donc on est loin du cliché des médiévaux qui mangent de la viande grasse tous
Oui,
les
c'est
jours,
ça,
de
du gros
matin, midi et
sanglier,
soir. Hein.
voilà, c'est ça.
Voilà, non, ça on en est quand même loin. Alors par contre, pendant les jours maigres, la viande est interdite hein, totalement, mais elle peut être remplacée quand même par le
Par
poisson. Le
du
poisson
poisson.
est Ouais, la poisson est autorisée, c'est ictus en latin, donc l'anagramme de Christ. Donc on a le droit de manger du poisson. Et il y a des poissons qui sont très très populaires, comme le brochet, beaucoup de poissons de rivière hein, à cause de l'approvisionnement, comme le brochet farci ou les anguilles grillées qui sont très
Les
réputées.
anguilles,
Et
j'avais
à
noté la même
partir
chose.
du XIIIe siècle, bah, le hareng va prendre beaucoup de place parce que c'est un poisson, une fois salé, qui se conserve très 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 longtemps, très facilement. Donc on va manger aussi pas mal de hareng pour les jours maigres.
Peut-être qu'on peut dire pour ceux qui nous écoutent ce que c'est que le brouet, parce que c'est pas si simple que ça en fait. On en parle pas mal là du coup. Enfin, on l'a cité à plusieurs reprises, mais le brouet en fait, c'est une sorte de bouillon de soupe, quoi, de soupe claire dans laquelle on a, enfin, nous on dit bouillon à l'heure actuelle, quoi, en fait, hein. On ne fait plus tellement de distinction entre les soupes, mais du coup, c'est un bouillon dans lequel on a fait mijoter des légumes et un peu de viande, sauf du coup, là, enfin, il peut y avoir par
Alors
exemple
voilà,
un
un
morceau
peu
de
de viande,
lard.
un peu de lard, exactement, c'est ce que j'allais dire, un jour un peu de lard et parfois un laitage et quand c'est à jour de carême, on peut remplacer ce laitage-là par du lait d'amande. Le lait d'amande est
D'accord.
très très
Ah
utilisé,
oui, c'est vrai que.
très très courant et effectivement que ce soit dans les... ce qu'on va appeler la desserte, on va parler
Voilà.
après chez les noms, mais la pâtisserie en quelque sorte, le lait d'amande est très prisé et on peut mettre le lait d'amande dans la soupe ou dans le brouet pour donner un petit peu de protéines et bah, c'est toléré parce qu'effectivement c'est à base
Voilà, c'est pas un produit
de fruits à
animal.
coque, voilà, c'est pas un produit animal donc ça craint rien.
Ben voilà. Donc en fait, c'est ça, hein. Ça, je pense qu'on se l'imagine pas vraiment, mais il y avait quand même énormément justement de consommation, bah, de ces petites noix et toutes ces choses-là, voilà, à l'époque médiévale. Et
Ben
ben
alors,
écoute.
si tu veux, je te lis rapidement une recette de justement de porée blanche à jour de carême faite avec des poireaux issus du ménager de Paris, donc
Ben oui,
1407,
alors
je crois.
d'ailleurs on peut le dire, pour ceux qui rechercheraient des informations, le grand, enfin le ménagier, le grand ménager de Paris, c'est quand même l'une des références en la matière, ben les plus. Enfin voilà, c'est quand même assez fascinant ce livre. Alors du coup, il est plutôt tardif quand même, dans mon souvenir, c'est 14e siècle.
Ouais, c'est la fin du XIVe siècle. Après, il y a plusieurs ménagers, il y a pas mal de viandiers aussi, mais qui sont pas seulement des livres de recettes, c'est des livres aussi qui parlent de vraiment, même le ménager de Paris, de tout ce qui va autour de l'alimentation, parce que l'alimentation, on l'a déjà dit dans un de nos précédents épisodes, elle est aussi très liée à la médecine.
Oui.
Donc, il y a vraiment tout ce côté de qu'est-ce qu'il faut consommer pour être en bonne santé, en plus de ce, comme le, c'était le, je crois, le... Sanitas Salernitum que nous avions cité et qui donne là encore des indications de comment bien manger et comment qu'est-ce qu'il faut faire pour être en fait en forme. Et donc oui, il y a ces livres de qui sont à la fois ouais, des livres de cuisine et puis un peu des livres de comment on pourrait dire de mode de vie.
Oui, c'est ça, d'hygiène, quoi.
Voilà,
D'hygiène
d'hygiène,
alimentaire,
exactement,
d'hygiène.
voilà.
Et moi, je m'étais appuyée sur le capitulaire de Willis. Je ne sais pas si tu connais. C'est un document qui avait été rédigé à la demande de Charlemagne. Alors là, du coup, ce n'est pas du tout hygiène, mais c'était plus pour énumérer en gros toutes les plantes, les arbustes et tout ce qui était du coup bon de cultiver dans les jardins royaux. Mais je trouvais que ça donnait du coup, c'était une grande liste, mais ça donnait du coup une super idée bah, justement de tout ce qui pouvait être cultivé en termes d'herbes aromatiques, de plantes et de légumes à l'époque médiévale en fait. Il y a vraiment, on retrouve ça assez facilement dans les archives, hein. Mais voilà, des grandes listes du coup de tout ce qui était cultivé dans les jardins royaux, quoi. Voilà, capitulaire de Willis, si jamais ça intéresse des gens, voilà, nos petites sources. Alors du coup,
Tout à
lis-nous
fait.
une petite recette alors de
Allez,
porée, j'imagine
de
que c'est
porée.
pareil que la purée.
C'est à peu près pareil, mais c'est plus, ça va être plus comme une bouillie, moi, je dirais.
D'accord, ok.
Voilà, donc là, on est sur les poireaux. Donc, porée blanche est dite ainsi, qu'elle est faite du blanc des poireaux. Elle accompagne l'échine, l'angedouille et le jambon en automne et en hiver, durant les jours de chair. Et sachez que nulle autre graisse de porc n'est bonne. Alors, et premièrement, on trie, émince, lave et éverde les poireaux au moins en été lorsque les poireaux sont jeunes, tandis qu'en hiver, lorsque les poireaux sont plus vieux et plus durs, il faut les parbouillir au lieu de les éverder. Si c'est un jour de poisson, après ce qui a été dit, il faut les mettre dans un pot avec de l'eau chaude et les cuire ainsi. Faites frire des oignons émincés, puis frits, et mettez le tout à cuire en un pot. En temps de charnage, vous pouvez utiliser du lait de vache. Les jours de poisson ou de carême, on y met du lait d'amande. Si c'est un jour de chair, quand les poireaux auront été éverdés ou les poireaux d'hiver parbouillis, comme il a été dit, on les met à cuire en un pot avec le bouillon des salures ou du porc avec du lard dedans. Voilà.
Eh
Donc,
ben voilà.
effectivement, c'est une recette qu'on peut adapter tant pour les jours maigres que pour les jours gras.
Donc les jours de chair, comme il
Jours de
disait à
chair, tout
l'époque,
à
mais
fait.
c'est il y a plein de vocabulaire, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que du coup on se met à table chez les nobles?
Alors moi, je pensais qu'avant ça, on pourrait parler de notre petite marotte des croisades
Allez.
et de quelque chose, je crois que tu connais vraiment très très bien, qui sont quand même les épices. Parce
Ah
que
bah
c'est vrai,
voilà.
on le disait un petit peu avant de commencer, on a une image, bon, voilà, de l'alimentation au Moyen-Âge qui est très grasse, donc on vient de démontrer le contraire, et surtout d'une alimentation un peu monochrome, un peu sans trop de saveur, sans trop d'odeur,
Ben,
sans trop de couleur.
je
Et
pense
c'est
que
faux.
ça
Voilà.
fait vraiment partie des clichés qu'on a sur le Moyen-Âge de façon générale. On voit le Moyen-Âge comme quelque chose de sombre, de sale, et voilà, de gris, quoi.
Exactement.
Je suis toujours hyper triste quand je vois les représentations. Voilà, on en reparlera certainement dans un autre
Oui.
podcast, sur les grands clichés du Moyen-Âge, mais quand on voit les films et les séries,
Ah.
si sombres, alors que, en fait,
Il y
le
aura
Moyen-Âge,
beaucoup à dire.
c'est quand même le festival de la couleur. Là, c'est quand même le
Complètement.
premier cliché. Il y a de la couleur, mais partout, partout, dans les églises, sur les vêtements, sur les tables et tout. Et c'est vrai que les épices à l'époque du Moyen-Âge, alors du coup, j'avais fait un post là-dessus, j'avais trouvé ça génial, j'avais fait des recherches effectivement par rapport à mon petit livre qui est en cours depuis très longtemps maintenant, mais sur les croisades et du coup, voilà, les échanges qu'il y avait pu avoir aussi à ces époques et l'importance qu'ont les épices à l'époque du Moyen-Âge. Et alors, ça a quand même trois grandes. Enfin, c'est important pour trois grandes raisons. C'est non seulement la couleur, justement, qui fascine les gens complètement au Moyen-Âge. Enfin, vraiment. Ça,
Totalement.
faut vraiment bien se le mettre en tête. C'est, on ne peut pas imaginer le Moyen-Âge autrement que coloré, en fait.
C'est
Donc,
clair.
voilà.
Avec
Ça,
des
c'est première.
dominantes, vraiment, des couleurs dominantes, voilà, le rouge, le jaune, le bleu, le vert, voilà, qui sont
Voilà.
vraiment les couleurs favorites, que ce soit, comme tu l'as dit, dans les vêtements ou dans les plats, du coup, effectivement,
Et
les
dans
plats
les
sont très
églises, on ne
colorés.
s'imagine pas
Et
ça,
dans
mais les
les églises,
églises sont peintes en
sont
fait.
peintes, ouais.
Ça devait être magnifique.
On le voit dans les
Mais
enluminures, quand on regarde un
voilà.
manuscrit enluminé, les couleurs sont quand même conservées, donc on voit, ça peut donner une petite idée. Mais
Oui,
oui,
c'est
c'est un
ça.
Moyen-Âge qui est flamboyant et qui est plein de couleurs. Et donc,
Et
les
du coup,
épices.
voilà, pour la fascination et l'attrait de la couleur, c'est aussi un attribut de richesse quand même, faut le dire, parce
Bien sûr.
que voilà, plus on peut avoir de tables garnies d'épices et de mets bien rehaussés par les épices, et plus du coup, ça montre qu'on est puissant et riche. Et c'est aussi pour les vertus curatives, on y retourne encore, hein.
Exactement.
De toute façon, au Moyen-Âge, tout est lié, hein. Enfin, je veux dire, on ne distingue pas la nourriture des médicaments, etc. La nourriture pour les gens du Moyen-Âge a aussi une visée curative. Mais bon, on peut citer quand même que la cannelle, qui était quand même utilisée énormément du coup au Moyen-Âge, tant pour le goût que pour ses vertus curatives, la girofle aussi, les coups de
Oui.
girofle. Et le galanga, qui est un peu moins utilisé, mais tu vois, j'ai, mais qui, enfin, qui est un peu moins courant, mais qui est quand même très utilisé. Je regardais du coup des prescriptions, par exemple, de Hildegarde de Bingen. Elle en utilise, mais énormément, et elle en recommande énormément, notamment pour tout ce qui est traitement des maladies du cœur, en fait. Le galanga et tout ce qui est maladie circulatoire. Donc voilà, mais c'est
Je
assez
sais
fascinant.
que le gingembre également est très 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 prisé. Je crois que c'est même l'épice la plus courante à partir du XIIIe siècle. Et il est utilisé également en forme confite. Et là, même effectivement, sous sa forme confite, c'est considéré comme un remède, le gingembre pour le coup, pour tout ce qui est hygiène dentaire, problèmes pulmonaires, etc. Voilà, c'est vraiment aussi une épice qui est très 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 prisée. Et sous sa forme confite, comme on l'a
Ben
dit, le
oui.
sucre. Aussi considéré comme un médicament encore à l'époque. Voilà, c'est encore plus, ça rajoute encore plus le côté médicinal en fait de la chose.
Et tu vois, à l'époque, là, j'avais appris ça aussi en faisant mes petites recherches, mais du coup, à l'époque médiévale, on aimait du coup bien colorer les tables, notamment par des sauces, du coup, très
Ah
colorées.
oui.
Et aussi les boissons, en fait. On colorait pas mal les boissons, du coup, en y ajoutant, par exemple, du safran pour donner du coup du côté jaune, ou le persil pour le côté bien, bien vert, ou du tournesol, en fait, pour donner un côté violet, en fait. Voilà. Et le bois de santal, c'était plutôt pour le rouge. Mais effectivement, du coup, ça donne une image. On faisait vraiment des boissons colorées, quoi, comme des cocktails un peu colorés. Là, ça devait
C'est
être quand même
marrant.
assez fou, hein. Assez fou à avoir ces tables du
Je sais
Moyen-Âge.
que le peuple, effectivement, qui est moins riche, a moins accès aux épices que tu viens de citer, comme la
Oui.
cannelle, qui sont quand même des épices qui coûtent assez cher parce qu'elles viennent de très très loin, hein, forcément. Mais par contre, la moutarde qui pousse très bien sous nos latitudes. On vient de découvrir que l'Ukraine, notamment, est un des principaux producteurs de moutarde. Hein.
Ben
Apparemment, ça
voilà.
pose des gros problèmes. Mais à l'époque médiévale, la moutarde est très cultivée et très consommée. Du coup, c'est déjà quelque chose qu'on utilise pas mal. Ça et les baies de genièvre, hein, de genévrier pour assaisonner notamment les venaisons, les
Ouais, puis
viandes
bon, on
chasse.
utilisait aussi toutes les herbes, en fait, tout ce qui était thym, laurier,
Oui.
romarin, l'oseille, le cerfeuil, enfin, toutes les herbes plus aromatiques, en fait, qui sont moins des épices. Mais bon, faut quand même. Les épices, effectivement, coûtaient cher. Je pense que du coup, on peut d'ailleurs même rapprocher la petite anecdote. Ça pouvait du coup être un moyen de paiement, en fait, d'où l'origine de payer en espèces, en fait. C'est de là que du coup vient le mot espèce, payer en espèces. C'était en fait payer en épices. Voilà. Du coup, pour dire à quel point ça pouvait être précieux,
Tout
mais
à
c'est
fait.
vrai que on
Tout comme
retrouvait
le
ça
sel,
quand
hein.
même comme le sel.
Les régions en France, en tout cas à Salins, je pense bah, forcément à ma région avec les Salins d'Aigues-Mortes et puis à ta région avec les Salins de Guérande qui sont exploités depuis l'Antiquité, hein, c'était des régions où il y avait vraiment bah, des grandes richesses en fait,
Bah, des
parce que
grandes
le sel
richesses, oui,
aussi
dues au sel, oui.
était très cher. C'était aussi
Complètement.
quelque chose qui servait de monnaie.
Donc, faut imaginer que, d'ailleurs, le pain au Moyen-Âge, il peut être aussi un peu épicé, en fait. On mangeait quand même pas mal de pain épicé, de pain d'épices, en fait, et de gâteaux qui comportent des épices. C'est vrai que là, quand tu regardes les recettes, par exemple, bah, d'Hildegard de Bingen et ce qu'elle recommande, avec ses épices de la joie, c'est quand même vachement. En fait, elle fait des petits mélanges, enfin, elle recommande des petits mélanges d'épices comme ça, qui, en fait, sont des. Bah, donnent, en fait, des petits. Le goût qu'on peut retrouver dans les pains d'épices, en fait, qu'on retrouve dans
Oui.
beaucoup de pâtisseries. En fait, et de gâteaux à l'époque, en fait.
Ben, c'est comme
Voilà.
ça qu'on va aussi avoir ben, des boissons, comme tu disais, à la fois colorées mais épicées. Alors, la boisson principale reste le vin. On se méfie quand même pas mal de l'eau encore à l'époque. Alors, le vin est toujours coupé, hein, et puis c'est un vin qui est pas
Oui, c'est un vin
qui est
clair quand
très.
même. Enfin, c'est
Oui,
un
c'est un vin
vin
clair, hein, oui,
léger, quoi.
exactement, qui a pas plus de 10 degrés. Mais les gens en boivent jusqu'à 2 litres par jour. Et non, effectivement, dans les régions plus au nord, ce sera plus un genre de bière, hein, qui est la stéroise. Le houblon, il sera vraiment assimilé à la bière que vers le milieu du XIVe siècle. Mais le vin, à l'époque, en tout cas nous, par exemple au XIIe ou au XIIIe siècle, et plutôt les époques sur lesquelles on écrit, c'est plutôt des vins blancs. Et ensuite, vraiment, à la fin du XIIIe, au début du XIVe, ça sera ces vins rouges très épicés, où on va mettre dedans effectivement tout un tas d'épices pour les rendre plus corsés, pour qu'ils aient plus de goût, et puis pour un petit peu cacher voilà, ce côté un petit peu parfois acide ou aigre qu'on n'aime pas forcément. Mais tous les paysans, pardon, cultive quelques ceps de vigne, quoi. C'est quelque chose qui est très, très, très répandu.
Il y a une boisson quand même qui est assez. C'est l'hypocras, quoi. L'hypocras,
L'hypocras,
c'est
tout à
quand
fait.
même une boisson assez représentative du Moyen-Âge. Alors, j'ai plus la recette exacte en tête de l'hypocras.
Plus non plus,
Attends,
mais
j'avais
effectivement,
dû
il y a
noter ça
énormément
quelque
d'épices.
part.
Il y a énormément d'épices dedans, mais oui, je ne l'ai
Oui,
pas
c'est ça,
forcément non plus.
c'est une boisson épicée en fait.
C'est un
C'est
vin
une boisson,
épicé.
c'est un vin épicé comme on pourrait un peu, bah, comme dans les vins chauds en fait. Alors, sauf qu'il n'est pas bu chaud, mais ça a un peu ce goût. Faut s'imaginer ça en fait. Faut s'imaginer le goût du vin chaud hein, avec ces épices-là quoi. Je pense que d'ailleurs, les recettes des vins chauds d'Alsace et tout ça nous viennent directement du Moyen-Âge en fait. Hein. C'était vraiment,
Oui. Je pense
voilà.
qu'effectivement, ça vient de là. Et je pense que, alors, l'hypocras ne devait pas se consommer
Voilà.
chaud, mais je pense qu'il devait y avoir ce genre d'infusion un peu à base de vin
Moi, j'avais noté
consommée
faire
chaude, ouais,
dans lequel on fait
macérée.
macérer des plantes ou des épices. Et je pense que c'est pareil, ça doit dépendre en fonction des régions
Ouais.
et
Chacun devait
des.
avoir son
Ouais.
interprétation.
Voilà. Mais c'est quand même une boisson très, très fréquente.
Et avant de passer à nos tables plus nobles, à nos banquets avec quantité de plats, ben j'aimerais citer juste rapidement le livre Cuisiner l'histoire de Nota Bene du Gastronogeek, parce qu'il y a une très belle recette dedans que j'ai eu le plaisir d'essayer, qui est dite de l'agneau du croisé. Et
Ah.
donc, juste pour vous faire saliver, c'est une épaule d'agneau au miel avec de la menthe et de l'houmous et un pain galette type un peu pita. Voilà,
Pita, ouais.
pour rappeler à
Oh.
la fois ce mélange entre l'Orient
L'Orient
et
et
l'Occident.
l'Occident.
Voilà,
D'ailleurs, je
ça donne
sais que
envie.
les épices, elles étaient aussi. Enfin, les gens étaient fascinés par les épices, notamment parce que beaucoup d'épices viennent de l'Orient et que l'Orient était considéré comme une sorte d'Éden aussi.
C'est ça.
Et c'est vrai que d'où cette fascination aussi pour l'Orient à l'époque du Moyen-Âge. Mais voilà, en tout cas, super, ça donne envie. Et puis bon, ça note bien aussi, on ne l'a pas dit, mais on va peut-être le dire dans les tables nobles, mais on aime quand même à cette époque-là. Le mélange un peu aigre-doux, sucré-salé,
Sucré-salé,
c'est quand
énormément.
même des goûts qui sont appréciés au Moyen Âge,
Ah
en fait, hein.
oui, beaucoup. Oui.
Donc là,
Totalement.
au miel, ça m'étonne pas du tout qu'on ait une recette
Exactement.
avec du miel, là, de viande au miel. Eh bien, écoute, on met la table. Alors, du coup, peut-être qu'on peut, on peut peut-être parler de ça, justement, de cette expression de mettre la
Mettre la
table.
table.
C'est quand même intéressant parce que du coup, chez les nobles, donc on mange à table, mais c'est une table qui est installée en fait,
C'est ça,
qui est
c'est une table qui n'est pas fixe.
voilà, qui n'est pas fixe, comme pas mal de mobilier au Moyen Âge, parce qu'en fait les cours étaient quand même des cours
Itinérant.
itinérantes, et c'est vrai que du coup, on a quand même du mobilier qui est facile à transporter, en tout cas pour la plupart, du mobilier courant, on va dire. Et les tables, en fait, c'était des tréteaux quoi,
Exactement, des
qu'on
tréteaux
installait.
avec des planches.
Voilà, tout
Voilà.
simplement. Et après, on y mettait une jolie petite nappe.
Oui, on aimait bien mettre du beau linge pour ses invités quand on est un seigneur et qu'on donne un banquet. Effectivement, on met une belle nappe. Non seulement ça cache les tréteaux et la planche de la table, mais en plus ça permet de s'essuyer les doigts, ce qui est quand même
Voilà.
très pratique.
Mais bonjour à nettoyer après, quand même.
Ah, ça, c'est pas le problème du seigneur.
C'est ça. Mais t'imagines. Mais je sais, j'avais lu justement qu'il y avait carrément un. Comment dire Je ne sais pas si on peut dire un ordre, mais enfin, il y avait une profession qui était, enfin, les lingères, quoi, du coup, la lingerie, mais il y avait quand même un office qui était quand même dédié vraiment au traitement du linge de table, en fait.
Une
Du
table.
coup, le garde-nappe, et du coup, au fait de bien nettoyer tout ça et de bien entretenir le linge de table, quoi.
Oui, ça va avec la cohorte des écuyers qui servent à table, hein, qui sont liés au service, que ce soit les écuyers trancheurs pour tout ce qui est couper la viande, couper le pain, couper, voilà, le seigneur ne coupe pas lui-même son pain, hein. Il y a des écuyers qui sont dédiés à ça et puis qui ensuite font le service. Il y a ceux qui portent, ben voilà, les aquamanilés, donc les
Les
récipients qui servent
lave-mains,
à se
quoi.
laver les mains,
Ouais.
hein, voilà, exactement, qui peuvent être d'ailleurs très beaux, souvent en or, en argent, en étain, avec des formes magnifiques. Et on a de très très beaux exemples au musée de Cluny, en forme de licorne notamment, de phénix, voilà, des choses très 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 jolies. Et puis il y a effectivement tout ce qui est vaisselle. Alors, pas de fourchette, hein, bien entendu. La fourchette, c'est
Et
beaucoup
oui.
plus tardive, hein. Donc, on pique avec son couteau et on a des cuillères. Et on a, oui, des très, très belles vaisselles sur les tables les plus riches. On peut avoir de la vaisselle en or et en argent. C'est pas du tout quelque chose de peu courant. Au contraire, ça se fait. Et ensuite, il y a ces... Alors ça, c'est moi, j'avais découvert ça aussi à Cluny. C'est ce qu'ils appellent les nefs. Donc, ces immenses... sorte de plat avec des formes vraiment
Ouais, c'est ça.
incroyables qui servent en fait à débarrasser pour le coup. Donc c'est
Mais
vrai
alors
que
du coup,
c'est
tu dis belle vaisselle, mais du coup, on entend bien les verres, les plats de présentation, mais pas les assiettes.
Pas les assiettes, donc seulement les tranchoirs, donc
Parce
les
que nous
grandes tranches
n'avons
de
pas
pain
du
dont
coup
on a
d'assiette à
parlé.
l'époque. Voilà, c'est
Non,
la
les
grande tranche de
couteaux,
pain, couteau et puis du coup cuillère.
cuillère.
Et voilà, du coup, l'idée, ouais, mettre la table, c'était vraiment installer la table.
Exactement.
Et voilà, avec un plateau plus ou moins large, j'avais noté ça effectivement. Oui, et du coup, tu vois, mais je m'étais fait une petite note sur le fait que la vaisselle était quand même souvent dans les châteaux exposés, quoi. C'était vraiment des pièces, soit sur des dressoirs, soit sur des buffets. Enfin, alors, quand on n'était pas à table, hein, mais c'était vraiment des pièces,
Ah oui, il y
bah,
a de
des
la très
pièces,
belle vaisselle. Oui, il y a des très
voilà,
très beaux. Les arts de la table sont des choses qui sont importantes, qui sont, voilà, même s'il n'y a pas au sens où on l'entend nous aujourd'hui, oui, c'est faire démonstration de sa richesse aussi, bien sûr, d'avoir des belles vitrines avec des beaux gobelets en sculptés ou je ne sais quoi. Voilà, c'est.
Ah, je pense qu'il y a un truc quand même qui est important à dire. Enfin, en tout cas, c'est que chez les nobles, c'est pas tout le temps le festin non plus. Parce que du coup,
Non,
tu
bien
vois,
sûr,
ça
heureusement.
dépend si on reçoit, si on reçoit pas. Ça dépend aussi de quel jour on est, justement, si on est en jour maigre ou si on est en jour de chair, etc. Mais du coup, Donc, on a la salle d'apparat et la salle de festin dans laquelle on va pouvoir festoyer, effectivement, mais en dehors de ces moments-là, finalement, les gens mangent plutôt dans leur chambre, en fait. C'est pas, on n'a pas de salle dédiée, il n'y a pas vraiment de salle à manger en dehors de la salle de festin, du coup.
C'est ça. Ben,
Et ça, je
comme il n'y
pense
a
que
pas
c'est.
vraiment de table, on mange,
Voilà.
voilà,
C'est
ou
un
en
cliché qu'on
cuisine.
peut avoir, tu vois, parce que je pense que même, tu vois, dans certaines séries ou dans certains films, on peut voir du coup les nobles manger tout le temps à table, en fait, même en dehors bah, de grandes réceptions. Alors que je pense que ça, c'est quand même un peu en dehors du.
Très
Voilà.
probablement. Ben de toute façon, oui, comme on vient de le dire, il n'y a pas de table fixe. Effectivement, il y a vraiment c'est servi. Soit, je suppose que même en temps vraiment spécifique de siège ou de guerre, c'est même servi dans la salle d'armes. Voilà, pendant que les seigneurs sont en train de fourbir tous leurs plans. Après, le banquet, oui, ça reste un événement rare.
Ah
Et heureusement, puisqu'il y a quand même entre 8 et 13 plats, hein, de service dans un banquet, donc c'est d'un véritable banquet médiéval, c'est ça,
Voilà.
c'est entre voilà, jusqu'à 8 à 13 plats.
Je pense
Donc on
que c'est
comprend,
physiquement assez éprouvant et je pense que
physiquement c'est
c'est
très éprouvant, ouais. C'est pour ça
assez
que c'est pas tous les
onéreux, tu
jours.
vois. Donc.
Alors oui, c'est très cher et je crois que c'est même des banquets de noces. Alors, je ne me souviens plus, c'est un roi germanique, et je ne veux pas me tromper dans son nom, mais voilà, il avait reçu tellement d'invités, c'est resté dans les annales qu'il avait même fait tuer toutes les bêtes de somme, tous les bœufs qui tiraient les chars, etc. Et après, bon, ben voilà, tu vas avec ta charrette, t'es un peu comme un con,
C'est un peu comme un con, ouais.
t'as plus de bœufs
Oh.
pour tirer. Donc oui, et on comprend mieux du coup cette tirade dans les visiteurs hein, de notre cher Godefroy de Montmirail. Hein. Où sont les poulards? J'ai faim, voilà, ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Oui, parce que le service était très long et il y avait, oui, beaucoup, beaucoup de plats. Donc le rô, ou donc la viande rôtie, c'est vraiment quand même le principal, le plat principal. Donc ça peut être des pièces de viande
Bah, des
extrêmement
signes, tu vois.
impressionnantes.
Ouais, c'est
Alors
ça.
voilà, la grande classe, c'est ça, c'est d'avoir un volaille. Donc on l'a déjà dit pour les fruits, mais ça vaut aussi pour les volailles qui sont plus consommées par les nobles parce que considérées comme plus proches du ciel, donc plus purs, plus nobles. Et ça peut être, oui, alors il y a même, je crois que c'est dans un manuscrit allemand du XIIe siècle qui donne des recettes de cuisine. Il y a une recette de hérons cuits à la broche en entier et rhabillés. Donc après, ils remettaient les plumes sur les oiseaux, donc hérons, paons, cygnes, très gros oiseaux, pour les servir tels quels. Donc
Oui,
on
c'est
avait
ça.
l'impression que la bête
On
était
les, voilà, on
entière.
les, ouais, c'est ça. On les met un
Donc
peu en
ça,
scène, en fait,
c'était,
du coup, après,
oui,
dans la
énormément de mise
présentation.
en scène, exactement. On va retrouver aussi beaucoup de sauces. Donc il y a énormément de sauces, on aime beaucoup les sauces pour aller avec, on en a déjà parlé. Et surtout parce que la sauce, bah, on va retrouver cette idée de couleur, elle va redonner cette couleur. Et donc une des sauces les plus prisées au XIIIe siècle, elle s'appelle la sauce cameline. Donc là, ça nous vient aussi des croisades, parce que cameline, ça vient de chameau.
Chameau.
Donc c'est cette idée de toujours Orient, voilà. Donc c'est une sauce qui est liée à la mie de pain et au jaune d'œuf et qui est à base de vin et de cannelle pour caler
Ouais, c'est
cette
ça.
couleur et de pain grillé, pardon, voilà, pour caler cette couleur jaune marron qui rappelle ben, la robe du chameau. Donc vraiment pain, cannelle, pain grillé et mie de pain grillé et jaune d'œuf pour lier tout ça et ça donne voilà cette sauce un peu jaune. Couleur camel, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autres mots.
Et
Donc
ça, du
ça,
coup, les grosses volailles, enfin, c'était à mon avis pour les jours d'apparat, mais on va dire que il pouvait y avoir aussi des volailles un petit peu, enfin, plus canards, dinde, oie, on va dire un peu plus communes, mais qui étaient quand même plutôt réservées aux nobles, du coup, sur les tables, et les gibiers plutôt gros, des gros gibiers. Enfin, comme je disais tout à l'heure, les lapins et tout ce qui peut être pris au collet,
Ça, c'est
c'est
le
plutôt pour
peuple.
le peuple, parce que du coup, je crois que le peuple n'a pas le droit de chasser vraiment, en fait. La chasse est réservée, du
Non,
coup,
il y
aux
a un
nobles.
interdit, hein.
Voilà, c'est ça. Il y a que les nobles qui chassaient et qui, du coup, pouvaient ensuite consommer ben, les sangliers ou
Cerf,
des
le cerf.
chevreuils, des cerfs,
Le cerf est très
voilà.
très prisé. Il suffit de. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est chasse au vol. Hein. Donc voilà, tu avais cité les pigeons. Ça, c'est typiquement des oiseaux que peut prendre un épervier en cours de chasse au vol. Donc oui, il faut regarder bah, les livres de chasse de Gaston Phoebus qui sont très 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 joliment illustrés, où on voit vraiment tout ce qu'on pouvait trouver comme gibier. Et certains nobles, quand même, entretiennent également des garennes. Donc oui, ils élèvent entre guillemets des lièvres et des lapins pour garnir un peu les tables. Donc c'est quelque chose qui se fait et qui se consomme aussi.
Ben ouais. Et du coup, au tableau noble, on a du pain, de la viande et pas mal de fruits, comme je disais tout à l'heure. Plus de fruits que chez le peuple, en fait. Le peuple a plus de légumes et ben, il y a des légumes aussi quand même, hein, chez les nobles, mais a priori, c'est quand même un peu moins prisé. C'est plus utilisé dans les sauces ou justement dans les soupes. Mais on aime du coup consommer des fruits, justement pour donner à la fois cette touche sucrée-salée, aigre-douce qu'on aime bien. Et puis, bah, parce que ça sert à la fois un peu en apéritif et aussi un peu en dessert sous forme de compote pour
Oui,
terminer le
alors
repas, quoi.
la compote peut même se consommer en accompagnement, c'est ce qu'on va appeler les entremets. Hein, voilà, donc c'est vraiment entre les plats de roe ou de viande rôtie, bah, il y a ces plats un petit peu plus légers, parce qu'il faut quand même se reposer l'estomac aussi, hein, parce
Ben, il faut
que
faire des breaks, quoi.
ouais, faut vraiment faire des breaks. Donc effectivement, il y a ces compotes qui peuvent aussi être mangées en accompagnement. Mais les entremets, c'est pas seulement de la nourriture, c'est aussi du spectacle. Quand on est riche, quand on est puissant, eh ben, on offre un spectacle en même temps que son repas. Et donc vraiment, c'est ça qu'on appelle aussi des entremets. Ça peut être bah, tout simplement une petite pièce de théâtre,
Voilà, des petits
un
chants
interlude
ou
de
des...
avec un joli troubadour, des poèmes de Finamore. Voilà, c'est vraiment tout un spectacle. Le banquet, c'est pas seulement manger, c'est vraiment tout ce qui va autour. Et effectivement, après, on conclut avec la desserte. Donc le dessert, donc surtout fromage et fruits, on l'a dit, beaucoup de fruits confits et quelques pâtisseries. Donc les plus connues, ça reste les oublis, qui sont des espèces de gaufres fines qui sont enroulées sur un fer à gaufrer, qui sont toutes rondes et très très fines, et où les darioles qui sont bah, des tartelettes basiquement, et ça c'est vraiment les pâtisseries les plus répandues à l'époque. On estime que le sucre accélère la digestion, donc on aime bien aussi les dragées en fin de repas, ils sont généralement appelés, alors moi j'adore ce nom, bout dehors, donc c'est
Donc
vraiment
c'est
la fin
ça,
du repas, il va falloir
j'avais
dégager
noté, voilà, bout dehors, sorte de
le bout dehors.
digestif, voilà, parce que,
C'est ça, c'est
ok, ben
accompagné de
oui,
dragées très souvent.
et...
Donc c'est le, il est temps de se barrer.
il est temps, ouais. Ben oui,
Il y en a marre.
je me dis qu'au bout d'un moment, hein,
Ça devait durer un certain temps.
Du coup, moi, je vais faire un petit rajout aussi. En fait, c'est tellement important, bah, du coup, chez les nobles, tous ces arts de la table, qu'on a carrément des ordres dans les arts de la table. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des métiers qui sont dédiés. Alors, comme on l'a dit, le pain a une place prépondérante dans la société, mais du coup, on a la panetterie, enfin, du coup, l'ordre qui s'occupe vraiment bah, du pain. Et on a, du coup, plusieurs panetiers. Voilà, avec un premier valet qui tranche le pain. Enfin voilà, il y a vraiment tout un rituel autour de ces ordres-là. Il y a du coup donc la panetterie, là c'est tout ce qui a trait au pain. On a les sommeliers, du coup ça on connaît du coup
On
à
a
l'heure
gardé le même
actuelle.
nom.
Voilà, on a gardé. On a les chansonneries, du coup. Là ça va être plus bah, la gestion des boissons. La cuisine, du coup, avec premier queue, potager, même à l'intérieur de la cuisine, en fait, on a des,
Une
on va dire
hiérarchie, quoi.
des, voilà, une hiérarchie, bah, un petit peu, enfin, comme à l'heure actuelle. Dans une cuisine professionnelle, on a quand même le chef, le sous-chef, enfin, voilà,
La
c'est toujours
brigade, quoi.
ordonné, voilà, on a une brigade, et c'était le cas à l'époque, même si on leur donnait pas tout à fait les mêmes, on avait le saucier. Voilà, il y avait un saucier, vraiment celui qui était voilà, habilité et habitué à faire les sauces, celui qui faisait les potages, celui qui préparait les viandes. Enfin, il y avait vraiment du coup des spécialités. Voilà. Et on avait du coup des maîtres fruitiers en fait. Voilà, avec le premier fruitier, le garde-fruits, le chauffe-cire, voilà, tout du coup l'ordre de la fruiterie. Voilà, pour dire en gros ce qui était important, le pain, le vin, la viande et les fruits.
Voilà, je crois qu'on
En
a
gros.
effectivement toute la panoplie, et en tout cas, ça prouve bien que ben, on ne mange pas que de la viande et on ne mange pas que gras sur les tables médiévales. Au contraire,
Non,
c'est
non,
très, très,
non,
très
non, non.
varié.
Et puis c'est finalement, faut le rappeler, même si on parle beaucoup des festins et des banquets, parce que c'est juste incroyable en fait, et c'est très spectaculaire et que c'est très photogénique, on va dire que du coup au cinéma, c'est
Oui.
voilà.
C'est
Mais en
normal.
même temps, bah, c'est assez rare en fait, hein. C'est assez
Oui, bien
rare.
sûr. Oui, là,
Ça
on
reste
parle
des
vraiment
exceptions
de...
de noces, de
Voilà,
fêtes. Enfin
exactement.
voilà, c'est pas non plus bah, tous les jours quoi. Hein. Même si du coup on en parle beaucoup.
Bah oui, c'est un peu ce
Voilà.
qui est resté dans les annales aussi. Donc c'est vrai qu'on rejoint un peu bah, cette image cliché. Oui, forcément, c'est ce qui nous a été transmis, c'est ces pratiques qui étaient réservées à la noblesse. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas ignorer non plus bah, ce qui était le commun des gens bah, qui étaient comme nous et en fait qui mangeaient bah, comme nous, quoi, hein,
Ben oui,
des
c'est
choses
ça.
simples et qu'ils pouvaient trouver facilement et qui était moins spectaculaire, forcément. Comme notre plat de
Tiens.
pâtes bolognaise du samedi soir, parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose.
Ben voilà, tout à fait. Tiens, j'avais noté un petit truc sur le rituel du temps de repas, alors plutôt en cas de festin, quoi. Hein, mais alors, même si, à mon avis, quand même, il y avait des choses qui étaient incontournables tout le temps, hein, mais voilà, là, du coup, plus dans des tables de vraiment seigneuriales, le repas est annoncé par un corps. Du coup, on appelait ça cornello. Du coup, c'était vraiment le signal de se laver les mains. Donc là, je pense que c'est ce que tu disais, du coup, dans les
D'accord.
aquamanilés, on se lave toujours les mains. Alors là,
Oui,
du coup,
toujours.
c'est pour revenir au cliché de on ne se lave pas au
On se lave les mains.
Moyen-Âge, on démarre toujours un repas en se lavant les
Ah
mains.
oui, toujours.
Puis après, du coup, il y a le placement selon le rang des gens. Et ensuite, il y a le bénédicité, chose qui, voilà, n'est pas toujours, enfin, à l'heure actuelle, sur certaines tables et dans certaines familles, on l'a gardé, mais la nourriture est toujours bénie. Alors, et ça, du coup, quel que soit le rang
Ah oui.
de la société, la nourriture est toujours bénie et c'est incontournable. Voilà, qu'on soit noble, qu'on soit du coup bah, le peuple, on bénit
Et
la
qu'on soit
nourriture.
même hérétique, puisque les cathares, c'était une des seules choses qui bénissaient, c'était le pain. Voilà.
Ah oui, d'accord. Bah, écoute, voilà. Et puis du coup, après, bah, il y avait le repas. Enfin, il pouvait y avoir du coup sur les tables royales, j'imagine aussi des essais justement pour voir si du coup il n'y avait pas de poison.
Bah, du
Est-ce que ça
poison.
c'est voilà. Et puis du coup après repas, dessert. Et puis ensuite, on se relave les mains et on démonte la table.
Exactement. Et on range, voilà.
Et
Enfin,
voilà.
les écuyers rangent, parce que bon.
On plie et
On
on
plie.
donne aux chiens du coup
Oui, les
les
tranches de
tranches quoi.
pain, non, les tranches non consommées, tout à fait.
D'ailleurs, nos écuyers et tous ceux qui s'occupaient du coup des grands banquets, là je me demande, ils mangeaient quoi eux? Ils mangeaient quoi? Ils mangeaient comme le peuple du coup ou ils mangeaient les
Ah oui, je
restes,
pense, oui.
les.
Ça reste des serres, hein, donc oui, je pense qu'ils n'avaient pas un régime forcément spécial. Ça devait être assez dur, hein, de voir passer
Ben c'est ça,
toutes ces
voir
bonnes
passer
choses
tout
sous son
ça.
nez.
Voilà, c'est ça, hein. Parce que bon, quand t'es paysan dans ta petite chaumière, là, voilà, bon, mais quand tu fais le service de toutes ces grandes personnes et que tu vois passer tout ça, mais que toi, hein, ça doit pas être si évident que ça.
Non, ça doit pas être facile.
Voilà, et ben écoute, on a fait le tour.
Oui, je pense on
Je
a
pense
quand
qu'on
même
a
bien
quand même
bien
bien brossé le tableau, on a
balayé le sujet.
bien balayé le sujet. Et ben écoute. On va s'arrêter là pour ce sujet qui était, à mon avis, assez intéressant et passionnant. Enfin, moi, en tout cas, j'aime
Oui.
toujours voir.
Et puis
Et puis,
réjouissant. Voilà, moi je
voilà,
trouve
c'est
que c'était
réjouissant, c'est
sympathique.
festif, c'est sympathique. Et puis, ça donne aussi, alors, faut peut-être du coup un petit rapport par rapport à la littérature et puis à notre côté plus auteur des choses, insérer des choses. Enfin, je trouve, moi, en tout cas, que ben, connaître des choses sur les arts de la table, sur l'art de vivre et y
Bien
instaurer des
sûr.
petites recettes, ça donne tout de suite, enfin, ça plonge tout de suite dans l'ambiance, en fait. C'est
Oui,
quand même.
complètement. Et puis ça dit, on l'a dit, ça dit quelque chose de la construction sociale d'une époque. Donc nous, on peut pas, quand on écrit un roman, passer à côté. Enfin, c'est difficile. On va pas forcément. Oui, on a envie d'écrire les nobles et les rois, mais on a aussi des personnages qui sont bah, des gens communs, des gens du
Ben
peuple et
voilà.
qui sont quelque part proches de nous. Donc s'intéresser à vraiment ce qu'est leur vie et l'alimentation, bah, ça reste une des choses principales dans la vie. On a besoin de manger, donc c'est quand même oui se rapprocher
Et puis
au
voilà,
plus près des gens finalement.
c'est ces détails-là qui font, je trouve, toute la profondeur et qui
La
fait
saveur
toute
du livre.
l'immersion
D'accord.
bah, d'un
En tout cas,
livre.
moi, il mange systématiquement dans mes romans. Il y a toujours un moment où on mange.
J'ai remarqué,
Pas
je
forcément
commence à
banquet,
avoir lu pas mal
mais.
de ses écrits, mais en même temps, c'est tellement important. Enfin, je veux dire, c'est tellement. Enfin, voilà, ça donne toute l'ambiance. Moi aussi, hein, souvent, j'intègre soit. Bah, en fait, j'essaie d'intégrer des repas du quotidien, enfin, vraiment des choses
Exactement.
prises comme ça, voilà, avec du pain, de la soupe, voilà, mais aussi un banquet, parce que, bah,
Voilà,
un
bah, il
banquet,
faut se
c'est quand
faire
même pas
plaisir.
mal, quoi.
Voilà.
Voilà, bon, bah, écoute, on va rester là-dessus, et puis
Ouais.
on se retrouve pour un nouvel épisode.
Oui, merci Marie, la bonne soirée.
Allez, bonne soirée à toi. Retrouvez toutes nos actualités en nous rejoignant sur Instagram sur les comptes Mariella Vesco, auteur, et The French Storyteller.